I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Calusa qui l'a monté. Notre invité était très très loin d'imaginer à quel point son merveilleux prince charmant allait lui gâcher la vie et en même temps lui rendre la vie si belle. Parce que jamais rien n'est blanc ou noir, parce que la vie réserve des surprises folles, son histoire n'a de cesse de se réinventer. Pour le pire et pour le meilleur.
Je suis très connectée sur les réseaux sociaux et très souvent sur Instagram. Et en juin 2016, j'ai quelqu'un qui like une photo. À l'époque, j'étais en profil ouvert. Et qui m'écrit, je vous trouve magnifique sur cette photo. Il avait trouvé la photo sur son feed d'inconnu, là où il y a des photos inconnues qui déroulent. Donc moi, je lui réponds, je vois qu'il est pas mal, et on commence comme ça à développer une conversation tous les deux. Alors, il parle pas français, hein, il parle exclusivement anglais. Il me dit, ça serait bien qu'on se rencontre. Jusqu'au jour où il décide de me donner son numéro de téléphone et je lui donne le mien, il me dit « je t'appellerai dans l'après-midi ». Et il me passe un coup de fil. Alors lui, il est anglais, il habite à Londres. Il me dit qu'il travaille dans la finance et il me dit qu'il vient de temps en temps à Paris, qu'il connaît bien Paris. Voilà, et il me dit « si tu viens à Londres, on se verra à Londres ». Et en fait, quand j'ai reçu son coup de fil, il avait une voix très sympathique, il était plutôt gentil, mais je l'ai trouvé plutôt primaire et plutôt pas du tout, un peu macho, parce que je lui disais que je devais sortir avec des copains pour aller au resto, et il me dit « mais quand on est une fille, on ne doit pas avoir beaucoup de copains, on doit avoir plus de copines ». Et ça m'a choquée, et je me suis dit « ce mec n'est pas du tout fait pour moi ». Peut-être qu'il a eu exactement le même ressenti, parce que après ce coup de fil, je crois qu'on a très très peu échangé, voire plus du tout. Un mois après, un mois et demi après, il met une photo de lui où il est en maillot de bain sur une plage ou au bord d'une piscine et je le trouve canon. Je me dis, tiens, il est quand même beau ce Matthew. Peut-être que j'ai jugé trop vite et peut-être qu'il ne faut pas juger en un seul coup de fil. Donc, je like la photo et je crois qu'il me dit « Ah, salut, comment ça va? Ça fait longtemps. » Et je lui dis « Oui, ça va. Et toi ?» Il me dit « j'étais à la piscine. Et toi, quand est-ce que tu viens à Londres ?» Et moi, curieusement, de par mon travail, il y avait un voyage qui était prévu, mais de pas très très longtemps. On va dire une semaine au mois d'août à Londres. Donc là, on me dit, il y a un projet à Londres. Je n'étais pas forcément sur le truc, mais je me suis dit, je vais me mettre sur le projet comme ça. Peut-être que j'aurai l'occasion de le voir. Le jour J arrive. Je suis très, très légère, très philosophe. Et je me dis, bon, si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne me fais pas de projet, je ne fais pas de plan. Je suis très curieuse, mais on va dire que... assez échaudée par mes relations précédentes, je me dis je vais pas non plus croire que c'est le prince charmant. Donc je prends l'Eurostar, j'arrive à Londres, je travaille quelques jours et puis au bout de je crois deux jours, je lui dis ben je suis à Londres si tu veux on se voit. Et il me dit oh là là, j'attendais ton appel, je suis hyper content et on se donne rendez-vous. Donc on se donne rendez-vous, je crois, un soir dans le lobby de l'hôtel où j'étais. J'ai mis une petite robe noire, j'ai mis des petites sandales, c'était au mois d'août, donc il faisait très beau, et un petit sac, et un blouson en jean, cintré, voilà. Et je l'attendais donc dans le lobby. Soudain, je le vois arriver. Je vois un homme grand, brun, beau, magnifique. Et là, je me dis, mais c'est une bombe atomique, ce garçon. Je crois que je tombe sous le charme et je me dis, qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas avoir pu le voir avant. Et tout se passe très vite dans ma tête et je me dis, j'espère faire un bout de chemin avec lui tellement il est beau. Et je le vois et je tombe amoureuse de lui. Alors en fait, dès qu'il s'est approché de moi, il m'a tenu la main et il m'a dit bonjour. Il m'a regardé dans les yeux. Et je me souviendrai toute ma vie de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, toi, je vais te faire un enfant. J'ai consacré ma vie à mon travail, j'avais pas d'enfant, j'avais 40 ans, donc je me suis dit, mais c'est l'homme providentiel, quoi. Alors j'ai senti qu'il était sous le charme parce qu'il ne lâchait pas la main et il était très respectueux, très galant, très élégant, très courtois. Il me laissait choisir où on voulait aller dîner. Voilà, je l'ai trouvé très intéressant et pas du tout celui que j'avais eu au téléphone. Alors, ce dîner, on rigole beaucoup. On se trouve une complicité tout de suite. Des échanges très fluides. On dîne, on a des fous rires ensemble. Et tout ça en quelques heures, quoi. C'était assez extraordinaire. Et à la fin de la soirée, donc on se balade dans Londres, il me ramène à l'hôtel et il m'embrasse. Et il me dit, j'espère te revoir très vite. Et il me dit, je te laisse remonter et je rentre chez moi et on s'appelle demain. Mes pieds ne touchent plus le sol, je remonte dans ma chambre d'hôtel et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de vivre ? C'est quand même incroyable, j'ai déjà vécu des choses pareilles, mais à l'étranger, quand même, c'est étonnant. Surtout avec quelqu'un qui ne parle pas ma langue. Et je remonte dans ma chambre d'hôtel et là je reçois un texto de lui qui me dit « J'ai passé une excellente soirée, je suis ravie de t'avoir rencontré et je remercie Instagram de m'avoir permis cette magie. » Et donc je lui réponds que je partage son émotion et que je l'invite à laisser faire le temps et à laisser faire la vie. Alors moi, je crois que je dois rester encore 2-3 jours à Londres et ensuite je dois rentrer. Et on se voit tous les jours, tous les soirs on se voit. Et je me fais une idée donc de son univers, puisque je ne le connais pas. Un homme bien dans ses baskets, les pieds sur terre, qui a un travail. Au bout du 3e jour, il m'invite à dîner et il me dit « Écoute, j'ai eu un coup de foudre et je ne veux pas te laisser partir. J'ai envie que tu viennes t'installer avec moi à Londres. » Alors moi, j'ai peur, mais en même temps, j'ai envie de me lancer dans l'aventure parce que j'en ai un petit peu marre de mon boulot et je me dis, je tourne en rond à Paris, peut-être qu'à Londres, il va m'arriver que des belles choses. J'appelle ma sœur sur le moment et je lui raconte et ma sœur me dit, écoute, fonce, qu'est-ce que t'as à perdre ? T'as pas grand-chose à Paris à part ton travail. Essaye d'en trouver un à Londres. Alors je lui dis rien sur le coup. Je lui dis, écoute, je vais réfléchir. Je pense que je vais te dire oui, mais j'ai besoin quand même de voir à Paris comment je peux arranger cette affaire et si je peux trouver un travail à Londres parce que je n'ai pas envie de dépendre de toi. Et en fonction de ça, je te dirai. Et il me dit, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de trouver un travail parce que moi, je suis là. Mais j'ai une petite voix dans ma tête quand même qui me dit, non, il faut quand même que tu assures tes arrières, on ne sait jamais. Et donc, je préfère rentrer à Paris et lui donner ma réponse ensuite. Voilà, mais bon, le recul, il n'a pas été très long parce qu'arrivé à Paris, il me manquait terriblement. Et je crois que le lendemain, je lui ai dit, c'est bon, je viens. Le temps de préparer toutes mes affaires, les visas de travail, etc., je crois que ça m'a pris un mois. Alors, j'avais aucun doute, aucun parachute. Je me dis, c'est lui et ça ne peut être que lui. J'en ai quand même parlé autour de moi, à mes amis, ma sœur, etc., mais j'avais envie d'y aller. Il n'y a rien qui me retenait, absolument rien. J'ai voulu même démissionner de là où je travaillais, mais mon DRH m'a dit, il vaut mieux que tu prennes une année sabbatique. Donc, j'ai pris une année sabbatique, j'ai trouvé un travail à Londres et en un mois, je prends mes 60 kilos de bagages et je débarque à Londres. Le mois avant de partir, on s'appelle tous les jours, il m'écrit des poèmes. Il me dit qu'il va trouver un appartement pour nous. Il me dit que des belles choses. Voilà. Il me dit vraiment que des belles choses et il me conforte dans ma décision, en fait. Il me rassure, il me dit que tout va bien se passer, que c'est pas si loin, qu'on pourra venir à Paris de temps en temps voir ma famille. Donc, je prépare cette arrivée vraiment sans me méfier et sans avoir aucun doute sur ce qui pouvait m'arriver, quoi. On se découvre, il me présente ses amis sur FaceTime, il me présente ses frères et sœurs, je fais la même chose avec ma famille. Virtuellement, ça va très très vite. Et il y a eu un petit hic, en fait. Un petit hic qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais quand on est amoureuse, ben, on ne voit rien du tout. C'était quelques jours avant d'arriver. Je lui demande s'il a trouvé un appartement. Et il change de ton. Et je vois qu'il botte en touche et qu'il me dit « Ben non, j'ai pas eu le temps. » Et là, c'est une autre personne au téléphone. Distant, sur la défensive, et plus du tout le Mathieu amoureux qui m'envoie des poèmes. Alors, j'ai mis ça sur le compte de la peur, sur le compte « On a été peut-être trop vite, je vais le laisser un peu respirer, peut-être que je le stresse. » Je commence à paniquer. J'ai signé mon année sabbatique. J'ai vendu ma voiture, j'ai rendu mon appartement, j'ai pris un crédit à la banque. Enfin, donc, tout est enclenché, quoi. J'ai eu mon visa. J'ai l'impression que faire marche arrière, c'est pas possible. Je me pose même pas cette question, en fait. Quand il me dit « Mais pourquoi tu me demandes ?» Je lui réponds « Bah, tu sais, il faut qu'on habite quelque part quand même quand on arrive à Londres. On va pas vivre chez tes parents. » C'est tout ce que je lui ai dit parce que plus j'en rajoutais et plus il s'énervait. Je découvrais quelqu'un qui était nerveux. Donc, j'ai vite arrêté. Peut-être qu'il a peur que je lui vole sa liberté, peut-être que ça va trop vite, peut-être qu'il a peur de manquer d'espace, il a l'impression d'étouffer. Donc, je me dis, je vais me faire un petit peu distant et puis je ne vais plus lui parler de cet appartement. Je me dis, mais s'il n'a pas d'appartement, je n'ai pas envie de vivre chez ses parents parce que ce n'est pas confortable. Et dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui vivent à l'étranger, et j'ai un ami d'ailleurs qui a un appartement à Londres, donc je lui dis, est-ce que si jamais je ne trouve pas d'appartement avec mon copain, tu pourras nous aider? Et il me dit, oui, avec plaisir, ne t'en fais pas, si vraiment vous ne trouvez pas, ben, je pourrais vous dépanner. Je me dis que je ne vais pas du tout y songer, quoi. Moi, je suis sûre qu'on va trouver un appartement, et je suis sûre que tout va bien se passer. Avant sa crise de nerfs, il me promettait mon émerveille. On va trouver un appartement, tu seras la plus heureuse, tu n'auras pas besoin de travailler, je serai là pour toi, on va se marier, on va faire une famille. Voilà, il m'a promis la terre, la lune et tout ce qui va avec. Après cette petite crise au téléphone, donc j'espace un petit peu mes coups de fil, mais bon, on s'appelle quand même 10 fois par jour, je ne lui parle plus de l'appartement et... Le grand jour arrive. Je monte dans le train. J'arrive à Londres, où il m'attend. je suis euphorique, j'ai peur de rien, il ne peut rien m'arriver, j'ai toutes ces valises avec moi, mon ordinateur, enfin toute ma vie, toute ma maison. Et je me dis, il ne va rien m'arriver du tout, tout va bien se passer, j'ai confiance en lui à 1000%, confiance en moi aussi. J'ai rencontré l'homme de ma vie et c'est lui et personne d'autre. Mais lorsqu'il vient me chercher à la gare, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est plus la même complicité. Je le sens dans sa manière de m'embrasser, dans sa manière d'avancer devant moi et de ne pas me prendre la main, dans sa manière de me dire « dépêche-toi, je suis mal garée », dans sa manière de me dire « t'as pris beaucoup de bagages, ça ne va pas rentrer dans la voiture ». Je le sentais nerveux, heureux mais nerveux. Je crois que je suis arrivée très tôt le matin, je crois qu'il était, je sais pas, 8 heures ou un truc comme ça, il m'a dit qu'il avait mal dormi. Et encore une fois, je mets ça sur le compte de l'émotion. Je me dis, c'est normal, il a peur, là je suis arrivée, il a sans doute peur de se jeter à l'eau parce que c'est un célibataire dans l'âme. Je ne vais rien dire du tout, je ne veux pas rendre cette relation amère et dans l'animosité parce que moi j'ai tout quitté à Paris. Donc je me dis, là quand même, il va falloir que je fasse attention, je marche sur des œufs. Et j'ai pour réflexe de ne rien dire et de rester muette. Donc, même l'histoire de l'appartement, je ne lui demande pas. On roule dans l'ombre, il y a un silence de mort. Je suis très mal à l'aise dans la voiture et je me demande ce que je fous là. Mais je me dis, je mets ça sur le compte vraiment du bouleversement de sa vie, quoi. C'est la première fois qu'on se revoit depuis le mois d'août. Là, on est fin septembre, exactement le 26 septembre 2016. Ça, j'oublierai jamais. Et donc, on roule dans l'ombre. Et là, j'ai l'audace de lui demander, on va où ? Et là, il me dit, mais tu ne m'as pas dit que tu avais un ami qui avait un appartement à nous prêter ? Alors là, je tombe des nues et je lui dis « Ben oui, mais tu devais trouver un appartement. » Il me dit « Oui, mais tu sais bien que je n'ai pas trouvé. Donc le mieux, c'est que tu appelles ton copain là et que tu nous dises comment on fait pour récupérer les clés. » Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé cet ami qui m'a dirigée pour avoir les clés et puis en quelques heures, on était dans l'appartement. C'est la première grande douche froide parce que je me dis quand même, il y a un truc qui va pas là, parce que c'est pas du tout comme j'avais prévu et c'est pas du tout ce qu'il m'avait dit. Donc on est dans cet appartement, il est super heureux dans l'appartement, il me dit que l'appartement est magnifique, effectivement, c'est 5 pièces, c'est très très grand, et il me dit, ça serait bien si on reste là. Et là, moi j'ai des blancs en permanence et je lui dis, non, c'est pas chez nous, c'est un ami, donc il va falloir vraiment qu'on trouve un appartement. Et il me dit « Oh, tu me saoules avec cet appartement. » Et là, je me dis « Mais vraiment, il a un souci. Qu'est-ce qu'il a avec le fait de ne pas vouloir prendre un appartement à deux ?» En fait, je n'ose pas lui dire mes doutes et mes craintes parce que j'ai peur de le faire fuir. Et je fais très attention à ce que je dis. Donc, c'est plus du tout fluide. C'est plus du tout la complicité qu'on avait avant. C'est plus du tout magique. Et je me dis, ça va se tasser dans le temps, j'ai pas fait d'erreur, je me suis pas trompée, c'est juste que là, c'est un peu crispé parce qu'on vient à nouveau de se voir. Et donc, il me laisse dans cet appartement cette première journée et il me dit qu'il doit aller travailler. Alors qu'il avait dit qu'il resterait avec moi pour m'ouvrir le compte en banque, pour faire toutes les démarches administratives, etc., etc. Et encore une fois, il ne fait pas ce qu'il a dit. Alors là, je me dis quand même, je me retrouve seule dans cet appartement à Londres, avec tous mes bagages. Comme j'ai trouvé par mon travail un autre travail à Londres, je me dis, il faut peut-être que je les contacte pour leur dire que je suis bien arrivée. Et j'essaye en fait de mettre mes émotions de côté. Et je me dis, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Je me rassure en permanence. Et les jours passent et on ne se voit pas. Alors, il m'appelle, il me demande si tout va bien, mais curieusement, il ne peut pas me voir. Alors, il ne peut pas me voir parce qu'il me dit qu'il a beaucoup de travail, qu'il finit tard et qu'il est très fatigué. Alors, au bout de 3 jours, je commence à me dire, là, ça pue. C'est plus du tout comme avant. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. C'est pas normal qu'il ne veuille pas me voir. Et au lieu de lui dire, je me dis, je vais faire la morte. Je ne vais plus répondre au téléphone. Et on va voir ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 48 heures, il est venu taper à la porte. Il est venu taper à la porte en me disant, bah, tu réponds pas, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je mets les cartes sur table et je lui dis, écoute, je suis arrivée, ça fait à peu près une semaine, on se voit jamais. T'as pas été capable de trouver un appartement, je suis chez un ami. T'as jamais le temps pour moi, donc j'aimerais savoir ce qui se passe. Et là, il me rassure, il me prend dans ses bras, il me dit qu'il veut pas me perdre, qu'il est désolé. Et il me rassure en disant, j'ai été un petit peu bouleversée par ton arrivée, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, mais ne t'inquiète pas, tout va bien aller, je t'aime à la folie, laisse-moi le temps, voilà. Et il me rassure comme ça. Et moi, je suis rassurée, je me dis, bah, ça va bien aller. Et on se voit, mais on se voit le midi pour aller manger un bout. Et puis les jours passent, ça fait à peu près 12 jours que je suis arrivée à Londres. Et un vendredi, donc on ne travaillait pas tous les deux, je crois que c'était un jour férié. Il m'appelle, donc je me dis, bah, c'est cool, il va venir me chercher, on va passer la journée ensemble. J'étais très tranquille à la maison. Il m'a appelé et il m'a dit, avec son accent à couper au couteau, il m'a dit, écoute, en fait, il faut que je te parle. C'est fini entre nous, ça ne va pas le faire du tout. Là, j'ai l'impression que le sol s'est ouvert sous mes pieds, que la terre tremble et que je vais m'effondrer. Et c'est ce qui se passe un petit peu au téléphone. Je commence à pleurer. Et il me dit, et tu vas pas en plus pleurer pour me gâcher ma journée? Alors là, je lui dis, mais t'es ignoble, t'es abominable, j'ai tout quitté pour toi. Et il me répond, tu n'as rien quitté pour moi du tout. Tu es venu pour ton nouveau travail, alors ne me la fais pas à l'envers, s'il te plaît. Je suis là, si t'as besoin de quoi que ce soit, et ne me dis pas que c'est moi qui t'ai demandé de venir à Londres. Il me dit que ça va pas entre nous, qu'il le sent pas, et il me donne aucune raison. Il me laisse comme ça, flotter au milieu de nulle part, et m'effondrant littéralement. Je préfère raccrocher au téléphone parce que j'ai l'impression que je peux plus respirer tellement j'ai une angoisse passagère qui va durer quelques jours, d'ailleurs. Heureusement, j'ai des amis à Londres et j'ai des amis à Paris qui m'ont réconforté et qui m'ont dit, si t'es parti, c'est peut-être pour une raison, donc reste, persiste. Et à Paris, t'as plus rien, t'as plus de travail, t'as plus rien, t'as plus de maison, donc le mieux, c'est que tu restes à Londres dans ton travail. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis dans mon coin, je pleure, je vois des amis qui me consolent et ils m'appellent de temps en temps, ils m'envoient des messages. Donc, j'espère que tu vas bien, ne t'en fais pas, je suis là, tu vas t'en sortir, t'es une fille bien. Mais tu ne me mérites pas. Enfin, les mots habituels quand on tombe sur des malveillants, quoi. C'est voilà, il m'a laissé comme ça avec des mots, des SMS de temps en temps qui me laissaient espérer que peut-être il allait revenir. Je me trouve conne. Je me dis, mais pourquoi j'ai été si vite? J'aurais dû le faire patienter. Peut-être qu'il se dit que je suis une fille désespérée pour tout quitter comme ça en un mois. Je me pose pas en fait la question de savoir ce qui se passe chez lui. Moi, en fait, tout se passait de mon côté. Et je suis dans un moment de fragilité intense où j'ai des doutes sur moi, j'ai plus du tout confiance en moi, je me dis que j'ai merdé complètement, que j'ai été trop vite, et je me dis que je l'ai fait fuir. Moi, c'est ce que je me dis en fait. Donc dans mon coin, je l'appelle pas, et pendant un mois et demi, comme ça, on n'a plus de nouvelles l'un de l'autre. Et je suis à Londres, je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, je me dis finalement la vie à Londres elle est pas si mal, mais j'ai quand même pas de repères. Et un soir, je crois que c'est un mois et demi après, 2 mois après, mi-novembre, on tape à la porte, et c'était lui. Et là, j'ouvre la porte et je suis à la fois heureuse, angoissée, contente, mais triste. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut? Mais comme j'ai tout quitté pour lui, vous imaginez bien que j'étais encore très, très amoureuse de lui. Et il me dit, ben, faut qu'on parle, je te dois des explications. Et là, je suis dans un film d'horreur. Il parle, il fume ses cigarettes et il me dit, ben voilà, il faut que je te dise la vérité. En fait, quand tu préparais ton arrivée à Londres, eh bien, je suis retournée avec mon ex-copine et je n'ai pas osé te le dire. Et en fait, je viens te voir parce qu'elle vient de me quitter. Et je ne veux pas vous perdre toutes les deux. Et là, j'ai plus du tout la peine que j'avais avant. Il m'a tout effacé d'un coup. Et là, je lui dis, non mais, est-ce que je dois rire ou pleurer là de ce que tu es en train de me dire ? En fait, depuis le mois de septembre, je fais tout pour venir m'installer avec toi, etc. Mais toi, tu es retournée avec ton ex. Il m'avait jamais parlé de son ex avant. Et alors là, il me donne les détails, en fait, il y avait son anniversaire, donc il lui a offert un cadeau, il a été chez ses parents, et il me dit qu'il avait vécu carrément une idylle avec elle. Et là, je me dis, mais je suis tombée sur un malade mental. Et il pleure, et il a l'air vraiment sincère à ce moment-là, et il pleure et il me dit, mais je t'aime, j'ai jamais cessé de t'aimer, d'ailleurs regarde, j'ai toujours continué à t'envoyer des SMS pour savoir si t'allais bien, c'est toi qui as arrêté de m'appeler et qui n'as plus donné signe de vie. Et là je me dis, bon, il est encore carrément beau. Je suis toujours sous le charme même de ce qu'il me dit, parce qu'il est dans la vérité, il est dans l'honnêteté, il est dans la sincérité. Et moi, en fait, j'ai plus peur de le dire, puisque je l'ai, de dire, de parler, d'élaborer, puisque j'ai déjà tout perdu. Ben, je lui dis que c'est un gros connard, qu'est-ce qu'il a fait, ça se fait pas, mais que je suis forte et que je m'en sortirai, et même sans lui, je suis très fière soudainement. Et là, il voit en fait que je suis plus la petite amoureuse qui pleure, mais il voit que je suis quelqu'un de fort. En fait, en quelques minutes, il m'a redonné la force. On se remet ensemble, mais c'est pas comme avant. C'est pas du tout comme la première fois où on s'est vu. Je me méfie, en fait. Je suis plus dans le 100%. On va dire que j'ai mis un pied, mais pas les deux. Et j'ai bien raison, parce que il me parle parfois de son ex, et ça m'horripile au plus haut point. Ben, une fois, on a couché ensemble, et juste après, il me parle d'elle. Donc, je me souviens avoir... l'avoir rejoint toute nue dans le salon en train de crier et en train d'hurler « J'en ai ras-le-bol que tu me parles de ton ex. Alors maintenant, soit tu décides de plus m'en parler, soit tu t'en vas. » Il me parlait d'elle pour me raconter des anecdotes de où elle travaillait, comment elle s'habillait, comment elle se coiffait, où est-ce qu'elle habitait, son appartement. Voilà. Il avait une obsession, en fait. Il m'en parlait de plus en plus. Jusqu'au jour où je lui ai dit, bah, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Il s'en va, un jour où je lui dis, va-t'en, prends tes affaires. Je me sens vraiment libérée. J'ai l'impression que j'ai plus cette lourdeur en moi, j'ai plus cette peine, cette mélancolie, j'ai plus ce regret. Je me dis que j'étais au bout du bout de cette histoire, je me dis que j'ai tout essayé. Et donc, je crois qu'il se passe une semaine ou deux. Et d'un coup d'un seul, je décide de rentrer à Paris. On est le 18 décembre, je prends un billet de train pour le 21. Je lui dis, ça fait 3 mois et demi que je suis là, j'ai l'impression de tourner en rond et d'essayer de recoller des morceaux cassés un peu partout. Et là, il me dit, mais non, tu vas revenir, c'est pas possible, t'es venu pour moi, rappelle-toi. Il prend ça de haut, il me prend pas au sérieux. Alors oui, lui, il a envie, il continue d'avoir envie, mais si on se voit pas, c'est pas grave. C'est plus l'homme amoureux que j'ai rencontré qui me prenait la main, qui me regardait dans les yeux avec ses yeux de biche et qui me disait « Toi, je vais te faire un enfant. » Non, c'était plus du tout ça. Donc, je décide de rentrer à Paris le 21 décembre 2016. Je me rappellerai toute ma vie, le jour où j'arrive à Paris, il m'appelle et là, je crois qu'il a un regain d'amour ou en fait un réflexe répétitif chez lui. C'est dès lors qu'il perd quelqu'un, géographiquement, il a envie de la récupérer. Et c'est ce qui se passe, parce qu'il m'appelle tous les jours, en larmes, et il me supplie de revenir. Et en fait, ces requêtes, je les écoute d'une oreille, mais je n'arrive plus à y croire, en fait. Plus, je lui dis, c'est marrant, tout ce que tu me dis, je l'ai déjà entendu, et je n'arrive pas du tout à le croire. Alors, le lendemain de mon retour, il se passe quelque chose d'incroyable. Je m'aperçois que je n'ai pas eu mes règles, et je me demande si je suis enceinte. Et j'ai un doute, parce que je n'ai jamais pu avoir d'enfant, étant donné que j'ai fait beaucoup de fausses couches dans ma vie. Les gynécos, un gynéco à Paris, chez qui j'étais suivie, m'avait dit que mon taux de AMH n'était pas du tout bon et qu'il serait très, très, très difficile d'avoir des enfants, à moins d'envisager une adoption ou un don d'ovocytes. C'était ces mots. Je vais acheter un test à la pharmacie. Et j'attends le lendemain matin et je fais le test. Et je vois enceinte de 2 semaines.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Fabien Caluza qui l'a monté. Un épisode qui n'est pas du tout terminé. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast et surtout, parlez-en autour de vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.